Allez, sans plus attendre, on va s'y mettre. J'ai réalisé, ou c'est mon épouse qui m'a fait réaliser que ce week-end, donc c'est, ou cette fin de semaine, c'est la fin de semaine qui précède la fête de la Saint-Jean. Donc j'imagine que certains d'entre vous sont déjà soit en préparatif ou peut-être sont déjà partis pour aller voir la famille, pour être entourés. C'est une belle période, donc sans doute de fête et de retrouvailles. Mais il faut se rappeler que la famille, pour tout le monde, c'est pas ça. J'ai entendu l'histoire d'un homme, un jeune homme qui, quand il avait grandi, en fait, était, comment dire, il était celui qui était le mal-aimé de sa famille. Il avait un grand frère, ils étaient deux. Et très vite, il a réalisé que ses parents faisaient des préférences pour son aîné. Parce que voilà, c'était celui qui réussissait tout, il avait les diplômes, il parlait bien, il avait l'intelligence, il était voilà, l'enfant rêve de tout parent. Et ses parents lui ont donc donné tout ce qu'il pouvait pour réussir. Il est allé à l'université, ses parents ont même payé l'université pour lui. C'était quelque chose d'extraordinaire pour eux et l'aîné a réussi. Il a ouvert des business, il s'est marié, il a eu quatre enfants. Et pour le dernier de la famille, ce n'était pas ça du tout. Quand est venu le moment d'entrer à l'université ou même au collège, parce que lui, il ne voulait pas forcément faire de longues études, ses parents lui ont dit, débrouille-toi. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est parti de chez lui. Il a réalisé qu'il n'était pas aimé, donc il est parti de chez lui. Il a fait des petits jobs de temps en temps. Il a réussi à se payer son collège, il a réussi à se payer son diplôme. Et puis, à la fin, ses parents n'ont même plus demandé de ses nouvelles, donc, no contact. Il ne les a plus contactés non plus. Et il a commencé à travailler. Et l'une de ses premières acquisitions, mis à part son truck, son camion, eh bien, ça a été un trailer. Il a acheté une caravane pour vivre dedans, parce qu'il n'avait pas de quoi se payer un loyer. Et son patron était très généreux, il lui a dit, écoute, on va faire deux choses, tu vas laisser ta caravane là, au fin fond de l'entreprise, et puis tu vas nous servir de garde de service, tu vas faire du gardiennage le soir. Et le jeune homme a dit, pas de problème. Il a continué à travailler dans l'entreprise, il a gravi les échelons. Et après plusieurs années, il a pu s'acheter la maison de ses rêves. Une grande et belle maison. Il en était très heureux. Et un jour, une fin de semaine, il a entendu quelqu'un sonner à la porte. Il est descendu, c'était tôt le matin. Et qui est là à la porte? Ses parents, son frère et sa belle-mère. Ou sa belle-sœur, pardon. Il lui disait, écoute, on passe par là et on a appris que tu as acheté une maison. Et puis ils l'ont poussé, ils sont entrés à l'intérieur, ils ont dit, waouh, quelle belle maison! Les vitres, les rideaux, tout est parfait! Écoute, on vient s'installer chez toi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Après des années. Bon. La famille, ce n'est pas aussi simple qu'on pense. En fait, il y a des gens, je ne sais pas si je vous avais cité ça l'année dernière, mais il y a des gens qui pensent que la famille doit être détruite. Il y a quelqu'un qui l'a dit, la famille nucléaire doit être détruite. Quelle que soit sa signification ultime, eh bien, nous devons aujourd'hui détruire la famille. Elle ne sert plus à rien. Certains ont proposé d'enlever les enfants de leurs parents et de les faire éduquer simplement par des communautés. La famille ne sert à rien. Jusqu'en 2019, il y avait environ 24 000 mariages par an au Québec. Avec la COVID, le chiffre a chuté à 14 700 en 2021. Depuis 2001, la moitié des enfants québécois ne naissent plus au sein d'un couple marié. Et le Québec est la province où on a la plus haute proportion de personnes vivant seules, 19% en 2021. On n'est pas loin. La famille, c'est compliqué. Au Canada, en général, parmi les 20 et 24 ans, 79% vivent en union libre. En fait, de 1981 à 2021, le nombre de couples en union libre a augmenté de 447%. La croissance des couples mariés n'était que de 26% pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, la famille, c'est compliqué. En fait, beaucoup de Québécois et d'Occidentaux ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une famille telle que Dieu l'a envisagée au départ. Et puis, j'ose vous demander, et votre famille, est-ce qu'elle va bien? Peut-être que vous avez souffert, hein? Et peut-être que vous souffrez encore à cause de votre famille. Aujourd'hui, dans un monde où on redéfinit la famille, l'histoire de la famille de Jacob, voilà comment je résume le passage, l'histoire de la famille de Jacob nous apprend que Dieu a inventé la famille biblique, qu'il agit à travers elle et qu'il a prévu des solutions étonnantes, non seulement pour préserver et transformer la famille que nous allons voir aujourd'hui, Jacob et ses descendants, il y a 3000 ans, mais Dieu a aussi prévu de transformer tout ce qu'ils veulent vivre son plan pour la famille aujourd'hui. Ça, c'est le résumé du message qui n'a pas été affiché, mais ce n'est pas grave. On va prier. On va le rappeler tout à l'heure. Prions. Seigneur, merci de te glorifier à travers ce que nous allons voir ce matin, à travers ta parole, à travers les familles de l'espoir, les familles de ton peuple au Québec, même au travers de toutes les familles au Québec. Nous prions que tu puisses guérir, réconforter, fortifier, et que aujourd'hui nous puissions être plus près de ta vision pour la famille. Amen.
Bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Genèse au chapitre 38, les versets 1 à 19, dans la nouvelle édition de Genève. Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adullamite. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. » Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve.
Si vous avez écouté notre texte, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et heureusement qu'il ne vient pas souvent, Jean-Élie. Je ne suis pas devenu fou, on a juste lu la Bible. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une faveur ou de la faveur divine, la faveur de Dieu sur une famille enfouie. La faveur pour une famille en fouillis. Le fouillis, c'est l'accumulation d'affaires disparates qu'on n'a pas arrangées, qu'on mélange partout, on met ça quelque part. C'est un fouillis. Ce que nous avons lu là, c'est juste une partie de ce désordre international. On va voir deux choses, simplement aujourd'hui, avant de faire quelques applications. On va voir le fouillis parental, le désordre qu'il y a au niveau des parents. Et puis aussi, on va voir le fouillis fraternel. On va voir le désordre qu'il y a au niveau des frères et des sœurs, d'ailleurs. Fouillis parental. Cette famille-là, celle de Jacob, c'est une famille en désordre. Et le livre de la Genèse progresse pour nous montrer au fur et à mesure des chapitres comment cette famille-là se crée. Et comment cette famille-là a besoin d'une solution. Et donc, il y a différentes sections dans la Genèse qui s'appellent les générations. Et ces générations décrivent non seulement la descendance, c'est-à-dire il y a la génération d'Abraham, donc on nous parle du fils d'Abraham, Isaac, et puis aussi d'Ismaël, mais bref, la génération d'Isaac, on nous parle de Jacob et d'Ésaü, mais surtout, le livre de la Genèse veut nous montrer que Dieu est en train d'agir à travers la vie de ces gens-là pour accomplir sa promesse. Quelle promesse ? La promesse que même si l'humanité s'est rebellée contre lui, je veux rappeler gentiment que le désordre dans lequel nous sommes, l'humanité se trouve, ce n'est pas de la faute de Dieu. La responsabilité, ce sont les humains qui la portent parce que ce sont eux qui ont dit à Dieu, « Tu ne nous intéresses pas. » On a mieux à faire. Nous récoltons ce que nous avons semé, mais Dieu a fait la promesse de donner quelqu'un qui va libérer l'humanité de tous ces problèmes. Et donc, la Genèse nous montre comment Dieu prépare la chose. Et là, nous sommes arrivés à cette section où on nous parle de la famille de Jacob. Et donc, surtout de ses fils, en particulier de Joseph et Judas. Qui vont être les figures que Dieu va utiliser pour sauver et diriger son peuple. Mais voilà, très rapidement, je voudrais vous donner un arrière-plan. Pourquoi on est arrivé à notre texte là ? Il nous faut premièrement noter dans ce fouillis parental, au chapitre 32, une rivalité amoureuse entre épouses, au pluriel. Parce que la famille de Jacob est totalement dysfonctionnelle, c'est une famille où il y a un père et quatre épouses. Un père, quatre épouses. Parce que c'est la tradition de l'époque, en partie, parce que le beau-père de Jacob a voulu lui jouer un tour, et Jacob, qui était amoureux d'une seule femme, Rachel, se voit donc lié par les liens du mariage avec sa sœur, la sœur de Rachel, Léa, parce que Laban voulait obéir aux traditions de son pays. Et donc, Léa et Rachel sont des rivales. Elles se livrent à un combat effréné et méprisant parce que, comme elles veulent l'affection de Jacob, elles vont utiliser toutes les armes à leur disposition pour essayer de le séduire et d'obtenir son amour. Et l'une des choses qu'elles vont faire, donc, c'est utiliser le standard de l'époque qui était avoir le plus d'enfants possible. Et dans cette course-là, c'est Léa qui a gagné parce qu'elle en a eu 5 d'un coup, alors que Rachel n'en a eu aucune ou aucun. Pourquoi cette idée d'avoir des enfants? Non seulement pour gagner l'affection de Jacob, mais en plus parce qu'à cette époque et encore dans certaines cultures aujourd'hui, on a dit aux femmes, « Bon, ben, si tu as des enfants, en fait, tu as de la valeur pour ce monde, tu es productive, tu es une femme non seulement féconde, mais voilà, utile et surtout à tes yeux, à tes propres yeux, tu devrais te sentir mieux. » Et donc, cette course à l'affection de Jacob, au nombre d'enfants, eh bien, va faire de deux sœurs des ennemis à cause de leur père Laban et à cause de Jacob. Donc, une famille bancale parce qu'il n'y a pas un père et une mère, il y a un père et puis il y a quatre mères. Deuxièmement, nous devons noter que chez les parents, il y a de très grands déséquilibres parce que Jacob, nous l'avons dit, n'aime pas Léa et Jacob va réagir d'une manière particulière face au viol, à l'agression de sa fille Dina. Au chapitre 34 de la Genèse, nous apprenons que Dina, donc la cinquième fille de Jacob, c'est la fille de Léa, elle n'est pas aimée et vous relirez chez vous, elle est allée voir les filles de la ville voisine parce que Jacob, c'est un nomade, c'est un bédouin, entre guillemets. Il traverse les endroits, il n'est pas dans une maison fixe. Et donc, il se trouve à côté d'une ville qui s'appelle Sichem et sa fille va voir les filles de la région et sa fille va rencontrer un jeune homme qui s'appelle aussi Sichem. Peut-être que la ville a été élevée en l'honneur de lui-même. C'est le fils du maire. Et le fils du maire se met à raconter donc à Dina toutes les choses, aux Antilles on dit toutes les baboules qu'un homme raconte à une femme quand il veut coucher avec. Tu es la plus belle, tu es la plus merveilleuse du monde, etc. etc. Et ça marche. Et c'est même pire que ça parce que Sichem ne veut pas simplement séduire la jeune fille, il va plus loin, il la force à avoir un rapport avec lui. Et le pire est qu'après cela, il la séquestre et dans sa délusion, il parvient à croire qu'il est amoureux d'elle, il est prêt à tout faire pour elle. Il lui dit qu'il l'aime vraiment et qu'il est prêt à l'épouser. Et là, nous devons faire une pause très rapide pour souligner que Dina a subi un outrage qui ne doit être ni occulté ni excusé. Lorsque ce genre d'événement se produit, nous devons nous lamenter sur cette situation et immédiatement avoir à l'esprit la conclusion suivante. Une femme ne doit jamais être blâmée dans ces circonstances. Aucune femme ne mérite un abus. Même si elle n'était pas bien habillée, même si elle avait une attitude provocatrice au départ, même si elle avait trop bu ou trop fumé, il n'y a aucune excuse pour un abuseur. Aucune. En fait, s'il faut blâmer quelqu'un dans ce récit, c'est bien Jacob, voyez-vous. Parce que Jacob ne se trouve pas là où il devrait être. Il est près de la ville qui s'appelle Sichem, alors que, vous pourrez le relire chez vous, au chapitre 28 de la Genèse, versets 19 à 22, Jacob avait fait une promesse à Dieu. Il avait dit à Dieu, « Écoute, si tu me ramènes chez moi en un seul morceau, parce qu'il avait dû fuir, si tu me ramènes chez moi en un seul morceau, je vais t'adorer dans un lieu, dans ce lieu-ci précisément où je te fais cette promesse, Ce lieu-ci sera la maison de Dieu, un endroit que je vais te consacrer, où je vais t'adorer et te louer. Cet endroit s'appelle Bethel. Or, Jacob se trouve à Sichem. Dieu l'a ramené là où il voulait aller. Dieu l'a protégé, Dieu l'a rendu riche. Et Jacob a oublié sa promesse. Et puis, je le dis, cet épisode est consternant pour plusieurs raisons. Non seulement parce que Dina a subi cet outrage, mais pire encore, après son abus, son père, lui, il ne fait rien. Il ne fait rien. Quand le jeune homme Sichem, là, il vient et puis il dit, oui, bon, je l'aime, je veux l'épouser, bon, ben, il ne répond pas. En fait, ses fils prennent la main parce qu'eux, ils sont furieux. Eux, ils sont furieux. C'est eux qui vont mener les négociations. Mais dans tout ça, hein, Jacob, il s'inquiète de sa petite personne. Dans Genèse 34, verset 30, nous lisons ce qu'il pense de tout cet épisode. Genèse 34, verset 30. Jacob dit à Siméon et à Lévi, donc ses fils, ceux qui ont mené la négociation, il leur dit la chose suivante, écoutez bien. « Vous me causez du souci en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai, moi, qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Un seul verset, 8 références à lui-même. Sa famille est mentionnée en dernier, et Dina, 0 fois. Jacob n'aurait pas gagné le prix du père de l'année. Et puis, il faut noter toujours dans ce fouillis parental, là, Genèse 37, vous pouvez relire ça chez vous, Jacob fait preuve de favoritisme éhonté. Jacob, donc, il a ses préférences pour Rachel et les enfants de Rachel qui arrivent, finalement, sont préférés aussi. Jacob préfère Joseph, le plus jeune des frères à cette époque, ou l'avant-dernier, ce qui va provoquer une jalousie mortelle contre ce Joseph-là, précisément. Jacob lui fait faire un beau vêtement, une tunique spéciale. Certaines versions vont vous dire que la tunique était multicolore. Ce n'est pas forcément l'idée, là. L'idée, c'était plutôt que la tunique était longue. Elle était l'équivalent du Gucci de l'époque, Dolce & Gabbana. Parce que les gens qui portaient des vêtements longs, surtout dans ces climats, c'était les gens qui restaient dans les tentes au frais. Alors que les gens qui portaient des vêtements courts étaient là dehors en train de faire de lourds travaux au soleil. Et donc, plus que le style du vêtement, c'est sa signification qui est importante. Parce que Jacob est en train de dire, « Joseph, mon fils, je lui donne un vêtement non seulement qui signifie qu'il est entre guillemets au-dessus des autres, il est à l'aise, il est au frais, il ne va pas travailler beaucoup. Mais puisque c'est le père qui offre ce vêtement lui-même signifie autorité et faveur. Jacob est en train de dire à sa famille, écoutez, le presque dernier, ce sera lui qui sera le boss. Et vous allez devoir écouter ses ordres. Joseph est traité en aîné de la famille, alors qu'il y a plusieurs frères et sœurs avant lui. Donc, du côté des parents, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout dans cette famille. Mais il nous faut aborder le fouillis fraternel du côté des frères, comment se passent les choses. Bon. Évidemment, après avoir vu comment Jacob traite ses enfants, vous comprenez bien que les enfants eux-mêmes ne vont pas bien. Ils sont profondément meurtris. Et ça, ça a un impact profond sur leur relation avec eux-mêmes. Ça a un impact sur leurs agissements. Et bien entendu, ce n'est jamais une excuse. Ce n'est jamais une excuse pour faire le mal. Dans nos sociétés antillaises, vous savez, on a beaucoup de... Notre situation familiale est très proche de celle du Québec. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui grandissent sans connaître leur père. Et beaucoup d'entre eux finissent dans la rue, dans la drogue, criminels. Et souvent, le premier réflexe, c'est de dire, mais voilà, écoute, ces circonstances familiales sont très difficiles, la société est très difficile. Pour Dieu, ce n'est pas une excuse. Parce que nous pourrions vous citer tous les exemples d'enfants qui n'ont pas eu de père et qui ont vécu des choses extrêmement difficiles et qui ne sont pas devenus des criminels. Donc ce n'est pas une excuse, mais nous devons constater tout de même qu'on ne peut pas être des parents donc légers, cavaliers, et puis ça n'aura aucun impact sur la vie des enfants. Ce n'est pas le cas. Dans le chapitre 34, je reviens à Dinah. Dinah a été violentée, et ceux qui vont prendre sa défense, ce n'est pas son père, c'est ses frères. Sauf que ses frères vont le faire d'une manière extrême. Ils vont devenir des meurtriers, figurez-vous. Ils vont tuer les gens qui ont abusé de leur sœur. Et ça, c'est grave. Mais en plus, il faut savoir qu'ils le font avec l'excuse de leur religion. Ils vont dire dans Genèse 34 à Sichem et aux hommes de la ville, écoutez, tu veux épouser notre sœur ? Pas de problème. Sauf que nous sommes juifs et tu devras te convertir à notre religion. Il faudra te faire chop-chop. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant pis pour vous. Je ne vais pas vous l'expliquer ici. Il n'empêche, tous les hommes de la ville se retrouvent dans une circonstance où ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils sont condamnés à rester au lit pendant quelque temps. Et pendant cette période, Siméon et Lévi vont prendre leur épée et ils vont égorger tous les hommes de la ville. Ils vont devenir des meurtriers en série. Non seulement cela, mais en plus, ils vont réduire les femmes et les enfants en esclaves. Ça, c'est brutal, ça. Donc, parce que leur sœur a été abusée, ce qui est grave, ils vont décimer tous les hommes et ils vont devenir des esclavagistes. Et leur justification est, on ne doit pas traiter notre sœur en prostituée. Ce qui est vrai. Mais la réponse à la violence que Dinah a subie n'est pas belle, n'est pas bonne. Toujours dans la famille de Jacob, il y a des atrocités. Dans le chapitre 35, versets 21 et suivants, il y a de l'inceste dans la famille de Jacob. Et pas comme on pense. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob, et il est tellement perturbé, peut-être d'ailleurs par les préférences que son père a commencé à faire, qu'il a décidé de coucher avec l'une de ses belles-mères, la servante de Rachel, Bilha. Et le geste est odieux en lui-même, et dans cette culture-là, il a une signification. Ruben est en train de dire, « Mon père prétend être le chef de la famille, mais c'est moi qui dois l'être. » Encore un autre problème dans la famille de Jacob, chapitre 37. Les frères de Joseph, nous l'avons vu, on les traite en inférieurs, on met le presque dernier au-dessus d'eux, on dit c'est Joseph qui sera l'aîné, qui va avoir la faveur, l'autorité. Ses frères sont tous jaloux de lui, ils manquent de le tuer, ils le vendent en esclave et ils prétendent à son père qu'il est mort. Joseph va être transporté en Égypte. Quand on regarde tout ça, on a envie de se dire, mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ça? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Et peut-être qu'on va se dire, ben, la solution, c'est Joseph. Joseph, c'est le jeune homme tout gentil qui a subi l'esclavage à cause de ses frères. Allons voir Joseph. Joseph, dans Genèse 37, on nous le dépeint effectivement comme celui qui a subi les préférences de son père, qui a reçu l'amour exagéré de Jacob. Mais surtout, on nous dit, et cela de manière un peu implicite, qu'il n'est pas tout à fait sans reproche dans la situation de la famille. Dans Genèse 37, verset 3, on nous dit « Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Les mauvais propos, les mauvaises paroles des frères. Excusez-moi de le dire comme ça, mais Joseph, c'était un snitch. C'était, en bon français, un rapporteur. Et certains commentaires pensent que c'est très positif, que Joseph est un garçon très juste. Il disait, ah non, mes frères, il ne faut pas faire ça. Sauf que, non, le mot là qui est utilisé pour parler des actions de Joseph, il est très mauvais. Il est utilisé seulement 3 fois dans l'Ancien Testament. Une première fois ici, une deuxième fois dans Nombre au chapitre 13. Vous vous rappelez, dans Nombre au chapitre 13, c'est le rapport des espions que Moïse a envoyé dans le pays promis. Il a envoyé 12 hommes là pour surveiller, pour voir bon, qu'est-ce qui se passe en Canaan, etc. Quand ils reviennent, vous vous rappelez, ils ont une grappe de raisin qui porte à l'épaule entre 2 gars. Et ils disent, le pays est magnifique, c'est extraordinaire, regardez les raisins. Mais il y en a 10 sur les 12 qui disent, oui, mais ce pays-là va nous tuer. Parce qu'il y a des géants, parce qu'ils sont forts. Et le texte nous dit, ils font un mauvais rapport. C'est ce mot-là qui est utilisé. Ce n'est pas un bon rapport. Dans Proverbe 10, verset 18, le même mot est utilisé et il est traduit « calomnie ». Celui qui répand la calomnie, c'est un insensé. Joseph, il ne fait pas une bonne job là. Il n'est pas en train d'essayer d'améliorer la situation. Il est juste en train de rapporter, « Ok, mes frères, non, ils ne sont vraiment pas bons, papa. Écoute ce qu'ils disent dans ton dos. » Pire que ça, toujours dans Genèse 37, le verset suivant, il nous est dit que les frères de Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et là, je vous demande de réfléchir, ce ne sera pas très compliqué. Joseph, ce n'est pas un enfant de 8 ans, hein. Ce n'est pas un adolescent de 12 ans, il a déjà 17 ans, presque 18 là. Et vous le savez, si vous avez des frères et sœurs, si vos frères et vos sœurs commencent à mal vous parler, ne peuvent pas vous parler avec amitié, vous avez 17 ans, vous en avez quand même dans la caboche, vous vous dites, il y a un petit problème, mais pourquoi ils me parlent comme ça? Et nous savons que Joseph était très intelligent. Joseph savait l'étendue du problème de sa famille. Cependant, quand Dieu lui envoie les rêves, vous vous rappelez? Les 7 bottes de blé et compagnie qui se rassemblent, etc. Les étoiles qui se rassemblent autour de lui, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir qui? En premier, il va voir ses frères. Il leur dit, les gars, j'ai rêvé que vous allez vous prosterner devant moi. Pas une fois, 2 fois. Non, mes amis, pardon, mais au minimum, je vais dire au minimum, Joseph, il n'est pas sage. Au minimum. Il sait que ses frères ne l'aiment pas, il connaît la situation de sa famille, et au lieu de calmer le jeu, il leur dit juste, les gars, je serai votre boss. » Alors, bien entendu, ça ne justifie pas, je le redis une nouvelle fois, le mal que ses frères vont lui faire. Parce que ses frères vont vouloir le tuer, mes amis. Ils en sont arrivés au bout, là. Là, ils ont dit, je ne suis plus capable. Je vais lui tordre le cou. Et puis finalement, l'un d'entre eux a l'idée lumineuse, écoute, on ne va pas le tuer. Et puis, un deuxième a une autre idée lumineuse, ils disent, on va le vendre. C'est pas une bonne conduite, c'est pas normal. Mais Joseph n'a pas été sage, il n'a pas aidé. Alors vous allez me dire, mais Jean-Élie, mais je suis désolé, tu ne nous aides pas, là, il n'y a pas de solution. Allons voir Judas. Judas, c'est le quatrième fils de Jacob. Et Judas fait hélas partie des mal-aimés de la famille. Et Judas, il est tout aussi, pour ne pas dire plus problématique que les autres. Celui qui va proposer de vendre Joseph, c'est Judas. Il va dire, bon, les gars, on ne va pas tuer notre frère quand même. On va juste le vendre, comme ça on va faire un peu d'argent. Genèse 37, verset 26. Après cet épisode, quand même, il y a quelque chose qui se produit chez Judas. Peut-être qu'il est tellement excédé par le manque d'amour de son père, ou peut-être qu'il a du dégoût pour lui-même, on ne sait pas, mais il décide de faire cavalier seul. Il décide, bon, cette famille-là, j'en ai marre. Je vais faire ma vie ailleurs. Donc il part. Il va s'éloigner de sa famille. Il va vouloir vivre seul. Il va devenir l'ami d'un Cananéen, et en faisant cela, il va s'éloigner des seules personnes qui connaissent un tant soit peu, un tout petit peu, le vrai Dieu. Il va s'entourer de personnes qui n'aiment pas Yahweh, le Dieu des Hébreux. Il va devenir l'ami d'un Cananéen, il va épouser une Cananéenne, ce que Abraham, Isaac et peut-être même Jacob ne voulaient pas. Elle ne connaît pas le Seigneur. Et les résultats ne se font pas attendre. Il a des enfants, et au moins 2 sur 3, l'Écriture nous dit qu'ils sont mauvais. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Judas est dans la compromission. Il choisit pour ses enfants une femme cananéenne qui s'appelle Tamar. Et vous avez entendu tout à l'heure, les deux premiers fils meurent parce qu'ils sont méchants. Un petit rappel de la grâce de Dieu. La raison pour laquelle nous vivons, c'est parce que Dieu est gracieux. Mais bref, les deux premiers fils meurent, et il ne veut pas accorder son dernier fils à Tamar. Et nous devons remarquer l'attitude perverse de Judas. Judas a vu que 2 de ses enfants sont décédés, et il est supposé avoir cette tradition qui existe dans la famille de Dieu, qui est que le frère doit épouser sa belle-sœur, la femme du frère décédé, pour que son nom ne disparaisse pas, pour que la famille de Jacob puisse être maintenue. À cette époque, c'est comme ça qu'on faisait les choses. Et Judas, il dit non, je ne vais pas respecter cette tradition-là. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, figurez-vous que c'est Tamar le problème. Il y a un premier fils qui l'a fait épouser cette femme, donc il se dit, ok, j'ai pris cette épouse-là pour mon fils, il est mort. Le deuxième s'est marié avec elle, il est mort. Et dans la petite tête de Judas, il se dit, le problème, c'est Tamar. C'est elle qui nous porte la poisse. Il ne se dit pas, non, c'est mes enfants qui étaient mauvais. Il dit, non, c'est la femme. C'est elle le problème. Judas, après la mort de son épouse, vous voyez là où il est tombé, lui qui avait entendu parler du vrai Dieu, il décide de fréquenter une prostituée sacrée, le crime est double. Non seulement il veut avoir des relations sexuelles hors cadre mariage, ça c'est une évidence, mais en plus, avec une femme qui servait des démons. Et puis, Judas, il a l'audace de vouloir faire le juste. en brûlant Tamar pour son inconduite. Lorsqu'il apprend que Tamar, finalement, est enceinte de lui, il va dire, « Eh bien, je voudrais que Tamar soit brûlée. » Bref, je finis la liste. Cette famille est en fouillis, elle est en désordre. Jacob est défaillant. Les fils aînés sont défaillants. Joseph est défaillant. Judas est défaillant. Tout ça pour dire que la famille que Dieu a choisie pour essayer d'aider l'humanité, eh bien, elle est en péril. Il n'y a rien qui fonctionne. Ou presque. Il nous faut faire quelques applications. Ma première application va être de le fait que nous devons veiller sur nos familles. Peut-être que quand vous avez entendu toute cette litanie de problèmes, vous vous êtes dit, ben finalement, je dis, ma famille n'est pas si mal que ça. Je pense que là, on est quand même bien. Jacob et sa famille nous rappellent que les erreurs des parents et des enfants ne vont pas être occultées bien longtemps. On ne peut pas empêcher les conséquences de nos erreurs, notamment si l'on fait des préférences. Soyons clairs, pour ceux qui ont des enfants, il y en aura toujours un ou deux avec laquelle on aura une plus grande affinité, on va parler plus facilement, ce sera plus aisé de passer son temps avec. Mais l'Écriture nous dit, non, tu ne veux pas de préférence. Tu aimes tes enfants, Proverbe 16, 22, je crois, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. L'Hébreu dit littéralement, enseigne l'enfant selon sa voie à lui. C'est-à-dire que les parents doivent connaître le caractère de leurs enfants, les aptitudes de leurs enfants et conformer leur éducation à ce qu'est l'enfant. On doit apprendre à concilier leur caractère et même si ce n'est pas quelque chose avec lequel nous avons une grande affinité, eh bien on va faire plus d'efforts. Si l'enfant aime lire, eh bien on va passer beaucoup plus de temps et d'efforts à comprendre celui qui n'aime pas lire. On va équilibrer les choses. On ne va pas faire les erreurs de Jacob. L'Écriture nous dit qu'il y aura aussi toujours des conséquences au fait de se détester entre frères et sœurs. Nous devons être des préservateurs, des protecteurs de la famille, pas des destructeurs de la famille. Entre frères et sœurs, nous devons apprendre à nous soutenir. Nous devons apprendre à calmer le jeu. Lorsqu'il y a eu des disputes passées à cause de problèmes divers et variés, on doit apprendre à s'estimer les uns les autres. On doit apprendre à s'aimer les uns les autres parce que, notez, c'est ce que Jésus fait pour nous. Nous sommes sa famille. Nous sommes ses frères et sœurs. Et lorsque Jésus donc prétend nous aimer, il prend le temps de nous aider, de nous comprendre, de nous aimer. Il prend le temps de colmater les brèches. Deuxièmement, nous devons veiller sur la famille de Dieu, l'Église. Je voudrais faire ce rappel, et je vous l'ai dit depuis l'année dernière, mon avis n'a pas changé. Le Québec, c'est l'un des endroits sur Terre le plus proche du paradis. Donc, spirituellement, c'est fantastique. La nature même nous prépare à l'éternité. C'est bien. Mais je veux vous prévenir, à un moment ou à un autre, les enfants de Dieu vont vous décevoir. Nous savons que nous sommes rachetés, justifiés par Dieu, mais le péché est encore présent dans nos vies jusqu'au retour de Jésus. Et cela veut dire que ceux qui sont à côté de nous, là, régulièrement, un jour, ils vont appuyer sur le bouton sur lequel il ne fallait pas appuyer. Et mieux encore, nous devons nous rappeler qu'un jour, nous allons appuyer sur le bouton sur lequel nous ne devions pas appuyer. Nous allons être une déception aussi. Ce n'est pas seulement les autres qui déçoivent, nous sommes parfois décevants. Nous sommes comme Joseph, nous voyons le problème et au lieu de contribuer à la solution, eh bien, nous manquons de sagesse. Est-ce que nous savons distinguer les humeurs, les sentiments des autres? Est-ce que dans cette soif d'être émerveillé par Jésus, nous pouvons considérer que Jésus vit vraiment dans chaque frère et sœur de l'Église ici à l'Espoir? À chaque fois que nous le voyons, nous voyons Christ en action. Et parfois, hein, dans cette vie de tous les jours, nous pouvons être troublés un instant par des déceptions, par simplement des circonstances difficiles. Peut-être que l'autre est fatigué, peut-être qu'il passe par un temps de trouble et sa réaction n'est pas la bonne. Est-ce que nous savons distinguer ses humeurs, ses sentiments? Est-ce que nous savons demander, t'es-tu correct? Et puis nous arrêter et prier avec. Et puis je voudrais m'adresser à ceux qui sont blessés. Et je vais demander à l'équipe de louanges là de se placer aussi. Je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont blessés et puis leur demander, mais est-ce que tu sais dire qu'il y a un problème? Est-ce que tu sais vers qui te tourner lorsque... Tu vois, c'est pesant et difficile pour toi. Parce que les frères de Joseph n'ont jamais pu faire ça. Ils n'ont jamais su exprimer les choses correctement. Et ils ont laissé simplement l'aigreur, le ressentiment se tasser là et puis devenir de la haine. Je veux terminer sur une bonne note, la meilleure note. Sur l'idée que Dieu répand sa faveur sur sa famille. Il y a de l'espérance dans notre passage. Judas, celui dont nous avons lu la description là, qui était peut-être le pire de tous, Judas va, suite à cet épisode, il va devenir le leader, le chef de sa famille. Il va retrouver ses frères, et ses sœurs, et puis il va commencer à prendre ses responsabilités. C'est lui qui a suggéré de vendre Joseph en Égypte, et bien c'est lui qui va dire à Joseph précisément lorsqu'il va y retourner, il va dire, écoute, pense à mon pauvre père, je ne veux pas te laisser Benjamin, le dernier frère ici, vous pourrez le relire dans Genèse 49. Ce sera tellement le cas que finalement Jacob va dire à la fin de sa vie, Judas, tes descendants, ou parmi tes descendants, il y aura celui qui va diriger tout le peuple d'Israël. De même Judas, là, qui s'est éloigné du peuple de Dieu, qui a couché avec sa belle-fille. Judas va avoir des jumeaux donc avec Tamar, et de cette lignée-là viendra la tribu donc de Judas, viendra David, viendra Salomon, viendra Jésus. Dieu prend les situations les plus sales et les plus horribles et il est capable de les changer en quelque chose de beau et de formidable. Dieu prend ces familles-là ou cette famille-là complètement cassée en désordre, complètement tordue. Et il se sert d'elle pour donner à l'humanité la réponse dont elle a besoin. Chers amis, rien ne pourra empêcher Dieu de se glorifier ou de sauver ses enfants. Absolument rien. Vous pouvez être dans le trouble le plus profond aujourd'hui. Vous pouvez avoir subi donc les moqueries ou la haine de votre famille. Dieu dit, rien ne peut m'empêcher de te sauver aujourd'hui. La haine de ta famille, les problèmes qu'il y a eu dans ton passé ne sont pas plus forts que moi. Je t'aime et je vais te sortir de là. Et toutes ces circonstances absolument atroces que tu as vécues, eh bien moi je suis capable de les renverser et d'en faire sortir quelqu'un quelque chose de beau et de propre. Si vous ne croyez pas en Jésus ce matin, je veux vous inviter à lui faire confiance. Quelles que soient les blessures de votre passé, il est capable de vous purifier, de vous restaurer, de vous guérir du mal causé par les autres. Et si nous-mêmes nous sommes l'auteur du mal, Dieu est capable de soigner et de guérir le mal que nous avons commis. Comment Dieu fait cela? Eh bien, Dieu prend Jésus et il le fait porter la responsabilité de nos erreurs, de nos culpabilités. Parce que Dieu est juste, il doit punir le mal. Donc Jésus meurt, il est mort il y a 2000 ans parce que nous étions coupables, parce qu'il y avait des fautes en nous, il y a des fautes dans toutes les familles du monde. Eh bien, Jésus assume cette responsabilité-là. Et Jésus, parce qu'il est parfait, nous donne en échange la perfection que Dieu attend. Et Jésus ressuscite pour montrer qu'il y a de l'espérance même après la mort. Et que si on lui fait confiance, il est capable de changer les pires des familles. Il est capable de changer les pires des individus. Non seulement de les pardonner, mais de faire d'eux des gens responsables, comme Judas est devenu. Chers amis, Dieu est capable de prendre les familles, de les transformer. Dieu est capable de prendre ta vie et de la rendre belle, extraordinaire, même si à l'intérieur, il y a eu beaucoup de brisements, de mépris et de honte. Il est toujours capable de le faire. Faisons-lui tous confiance ce matin. Il est capable, il va agir. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette grâce et cette certitude que tu donnes. Quelle que soit la profondeur, la noirceur du péché, tu es capable de nous rendre purs, de transformer les situations les plus difficiles. Alors Seigneur, redonne encore aujourd'hui espérance et courage à ceux qui portent de lourds fardeaux, peut-être à cause de leur passé. Seigneur, encourage-les. Comme tu l'as fait dans la famille de Jacob, ramène l'espoir, ramène la beauté, la certitude, la responsabilité, l'amour, la paix. Et surtout pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, que Jésus devienne ce trésor de guérison, de restauration, de pureté. Nous te prions parce que non seulement tu en es capable, mais tu es désireux de le faire. Je prie que des vies soient changées encore ce matin. À cause de Jésus qui nous a aimés, qui s'est donné pour nous, qui est ressuscité pour nous et qui revient bientôt nous chercher. Amen.